Synth Podcast.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres.
Je m'appelle Charles Rigoux, je suis journaliste et chef du service vidéo du Monde, qui est une équipe d'une quinzaine de journalistes qui produit tous les contenus vidéo du Monde, puisque le Monde produit 100% de contenu original au sein de la rédac elle-même. C'est essentiellement des vidéos d'actu, des vidéos pédagogiques sur l'actualité pour comprendre l'actualité, et puis des vidéos d'investigation. Donc c'est entre nous ce qu'on dit par montrer, expliquer, révéler. Montrer l'actu, expliquer l'actualité et révéler des infos.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est né ce projet autour de l'appel du 18 juin et décrire un peu la production
Ouais, c'est un projet qui est né en 2020 et qui a pris des années à être enclenché parce que entre temps il y a eu la vague Covid et on a tout mis en pause, mais qui est né d'un paradoxe. Paradoxe, c'est que l'appel du 18 juin, c'est donc le discours, un des discours en français les plus célèbres de l'histoire. Il est étudié dans tous les manuels scolaires, il est commémoré par tous les présidents de la République chaque année. C'est vraiment un moment essentiel, phare, central de l'histoire de France, au moins du XXe siècle. Et pourtant, on pense tous l'avoir entendu, on ne l'a jamais entendu. On pense tous en connaître une version un peu canonique, c'est probablement pas la bonne. Et il n'a pas été enregistré. Si on ne l'a pas entendu, jamais vu, c'est parce qu'il a soit jamais été enregistré, soit été enregistré, l'enregistrement a disparu. Il y a débat d'experts sur le sujet, j'étais avec un historien encore il y a 30 minutes, et tout ça reste très confus. Donc on est parti de ce paradoxe-là en se disant, c'est étrange, quoi. Il y a un truc marrant. Et donc, là, c'est ouvert un double travail. D'un côté, un travail historique, de journaliste, hein, mais historique, pour retrouver le texte le plus proche possible du prononcé du général de Gaulle, du prononcé du 18 juin 40. Et en parallèle, se dire ce texte et donc cette voix qui a disparu, ce document qui a disparu et qu'on ne peut pas réécouter. Et si on essaie de le réécouter, pour le réécouter, il y a deux solutions. Le faire jouer. Ça a été fait un paquet de fois pour la télé, pour le cinéma, etc. Ou bien s'appuyer sur des technos nouvelles de deepfake audio pour tenter de le réentendre avec une voix qui s'approche de celle du général de Gaulle.
D'accord. Et donc, du coup, comment vous avez procédé? Vous avez utilisé un acteur ou c'est une voix complètement générée artificiellement?
Voilà, donc ça s'appuie. C'est pas du text-to-speech. Parce que le text-to-speech aujourd'hui, c'est des technos qui, même quand elles fonctionnent bien, vont permettre donc produire de l'audio à partir de texte, mais la plupart du temps, en maintenant une dimension assez robotique à la voix et surtout en lui donnant un ton très monocorde, sans grande émotion. Ce qui s'applique pas très bien à un discours qui est quand même un discours d'appel à continuer le combat en pleine guerre, donc avec une émotion très forte, quoi. Et donc là-dessus, il y a une autre techno que la techno text-to-speech, une techno plus de cloning vocal, sur lequel, donc, tu le sais bien, il y a quelques gros laboratoires technologiques qui se positionnent, dont l'IRCAM, avec IRCAM Amplify en France. Et eux, c'est une technologie donc très différente, où ils vont mouliner quelques minutes de discours du général de Gaulle, donc des documents, pour en créer une sorte d'ADN vocal du général de Gaulle. On va faire enregistrer à un acteur le texte de l'appel du 18 juin pour lui donner l'émotion, pour lui donner le rythme, pour lui donner la fougue, par exemple, du général de Gaulle. Et là-dessus, le deep learning et le machine learning va venir habiller la voix de l'acteur avec l'identité vocale du général de Gaulle. Donc, le rythme, l'émotion sont celles de l'acteur. Le timbre, comme disent les chercheurs, la voix elle-même, l'identité de la voix, sont celles du général de Gaulle.
Et là, du coup, vous avez donc un acteur. Je crois que c'est François Morel, c'est ça?
Ouais.
On entendra pour les visites, pour ceux qui veulent écouter votre travail, je les invite à se rendre sur lemonde.fr. c'est quoi les challenges qui ont été les plus importants pour travailler en travaillant avec François Morel pour reproduire cette voix ou cette manière de s'exprimer de Gaulle?
En fait, plus on avançait, plus je me disais c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à l'archéologie expérimentale où on va essayer de recréer une situation un peu comme à l'époque entre guillemets et puis ça va nous apprendre des choses. Et donc en travaillant avec François Morel, on lui a d'abord fait répéter des extraits de discours de Gaulle pour que la machine soit capable de dire ok, sur un même texte, De Gaulle dit ça, Morel dit ça, donc j'arrive à définir ce qui est de l'identité propre à chacune de ces deux voix. Et ensuite on a fait lire l'appel du 18 juin à François Morel, et là bah, y avait un enjeu, c'est-à-dire se dire François Morel va l'interpréter à sa façon. Et en même temps, il ne faut pas être trop loin de ce qu'on imagine comme étant le De Gaulle de 1940, c'est-à-dire un De Gaulle qui n'est pas le De Gaulle de mai 68, qui n'est pas le De Gaulle des accords d'Évian, ce n'est pas le De Gaulle du « je vous ai compris », ce n'est pas le De Gaulle non plus du Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ce n'est pas un De Gaulle grandiloquent qui a 60-70 ans. C'est un De Gaulle qui a 49 ans, dont c'est quasi certainement le premier discours radiodiffusé et d'une telle importance. Donc on peut imaginer son émotion, voire forme d'angoisse, de peut-être d'hésitation de temps en temps. C'est un De Gaulle qui à la fois nous parle, parce qu'on le retrouve, et en même temps c'est un De Gaulle plus jeune et assez différent du De Gaulle qu'on a mécaniquement. Donc c'est là-dessus qu'on a bossé avec François Morel, et je ne lui ai pas demandé grand-chose d'autre que de jouer le texte, mais par exemple, sur des fins de mots un peu traînantes, très, très typiques du général de Gaulle, je lui ai demandé de reprendre. À un moment, il dit « mais le dernier mot est-il dit ?» Et je lui ai dit « le général de Gaulle, les « mais », il les fait plutôt « mais ». Voilà, donc il a plutôt dit « mais le dernier mot est-il dit ?» Voilà, c'est des petites choses comme ça qui, pour le coup, sont difficiles pour la machine après à recréer si l'acteur ne le fait pas. Puisque c'est du domaine du rythme. Du rythme du propos plus que du domaine de l'identité du grain de voix lui-même, quoi.
Oui, donc du coup on a l'IRCAM du coup applique un filtre un peu à la façon Snapchat, mais de façon plus élaborée sur une voix qui va en fait changer la tonalité, mais toute la musicalité en fait de la voix va être transposée par l'acteur, quoi.
C'est exactement comme c'est exactement comme les deepfakes vidéo type Planète des Singes, etc., ou Gollum. Voilà, c'est comme Gollum. Il y a un acteur qui joue, c'est son émotion, c'est ses mouvements, mais le visage, c'est celui de Gollum qui est appliqué sur son visage à lui, quoi.
Lui, quand tu lui as proposé cette collaboration, quelle a été sa réaction? Parce que là, pour le coup, c'est sa voix qui disparaît. D'habitude, on fait appel à un acteur de cette renommée pour sa voix. Et là, il disparaît complètement. C'était quoi sa réaction?
Il était très intrigué. Il a répondu assez vite positivement. Il m'a dit « projet insolite, donc intéressant ». Parlons-en, on en a parlé, et en fait je pense que le défi un peu artistique, un peu technique, voilà, la frontière des deux, ça l'a séduit, quoi. Et en plus il s'est assez bien intégré, enfin il a vraiment joué le jeu. C'était même marrant parce que la veille du tournage, je lui dis on se retrouvera à telle heure à la rédaction du Monde, et il me répondait je vous ai compris par texto. Mais je pense qu'il a bien aimé, parce qu'en fait il est quand même là. Il est quand même là, François Morel, dans l'appel du 18 juin. C'est-à-dire, pour les gens qui le connaissent bien, on retrouve sa façon de parler, une forme de... Voilà, l'intensité qu'il peut mettre dans certaines chroniques sur Inter et tout. Mais c'est une voix qui est celle du général de Gaulle. Donc, on y retrouve un petit peu de François Morel, mais c'est quand même le général de Gaulle.
Est-ce qu'il y a des projets qui t'ont, que tu as vus par ailleurs, qui t'ont inspiré pour faire ce projet-là en particulier ?
Moi, ce qui m'intéressait là, c'était, je vais te répondre oui, il y a des projets qui m'ont inspiré. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir un projet qui mélange bien le fond et la forme, et de se dire, il y a une enquête historique qui est faisable sur l'appel du 18 juin, puisque tout ce qu'on sait autour de cet appel est plus compliqué que ce qu'on croit. Et en même temps, en termes de forme, on va recréer ou essayer de recréer cet appel, et ça permet d'avoir une dimension catchy et qui donne envie, ludique en fait, qui donne envie de s'intéresser aux propos historiques. J'ai vu des choses qui sont assez intéressantes. Dans le domaine très pop culture, Il y a quand même tous les travaux sur les deepfakes vidéo dans les films. Dernier Avatar en fait un usage assez puissant, parce que Sigourney Weaver joue quand même une fille qui doit avoir 13 ou 14 ans, alors que voilà, elle a peut-être 40 ans de plus aujourd'hui ou 50 ans de plus aujourd'hui. L'acteur de Star Wars, Mark Hamill, qui a pu jouer Luke Skywalker alors qu'il a 69 ans. Luke Skywalker dans la série en a à peine 20. C'est assez. Ça questionne, en même temps, c'est vraiment une démarche que je trouve artistiquement intéressante. Et puis, sur Arte, il y a eu un assez beau documentaire sur Isaac Asimov que je trouvais intéressant, dans le jeu aussi fond-forme. Voilà, on recrée un deepfake pour interroger le futur, etc. Je trouvais ça chouette. Il y a un documentaire qui m'a marqué, et c'est toi qui me l'avais conseillé. Alors le nom, c'est un Looking Chechnya. Attends.
Welcome to Chechnya.
Et voilà. Documentaire que tu m'avais conseillé qui s'appelle Welcome to Chechnya, qui est incroyable, et où des militants, des militants de la cause LGBT en Tchétchénie vont sauver des Tchétchènes qui sinon seraient butés. Et ils posent des deepfakes vidéo sur leur visage pour éviter qu'ils soient reconnus à l'écran, quoi. Et j'ai trouvé ça saisissant. Ça fait un documentaire qui est quand même hyper, hyper touchant, bouleversant, et qui permet de mettre le visage des militants sur les personnes mêmes qu'ils vont sauver. Et je trouve que ça crée vraiment un truc très fort, quoi.
Au niveau de la rédaction, quand tu as proposé le projet, c'était quoi la réaction de tes chefs par rapport à l'usage de cette technologie et le sujet en lui-même qui, on comprend, il y a déjà un intérêt éditorial, mais.
Ouais, ben la direction était intriguée, intéressée, mais très prudente. On est à un moment, a fortiori en pleine guerre en Ukraine, avec des propagandes qui s'affrontent, où c'est risqué, périlleux de bosser, de développer un deepfake. Donc, grande prudence de la direction à dire attention. Un média face à un deepfake, ça pose beaucoup de questions. Mais très vite, ils ont bien compris l'opportunité aussi de dire, bah justement, en produire un sérieusement, avec des pros, dans un cadre éthique, journalistique et historique très clair, ça permet aussi de mieux comprendre ces technos-là, de les expliquer à nos lecteurs. Et là, ils ont dit go, quoi. Sur le projet lui-même, on s'est fixé une limite très claire. C'est de ne faire dire au général de Gaulle que le texte exact du prononcé du 18 juin 1940. Aucune blague, aucun propos inventé, il y a rien de tout ça. François Morel s'est amusé au moment de l'enregistrement à faire des blagues comme ça et à imiter un peu le général de Gaulle. On s'est dit, ah, entre nous, on s'amusera peut-être à le poser avec la voix du général de Gaulle, mais en fait, on l'a même pas fait parce que c'est trop risqué et on n'a pas envie de jouer avec ça. N'empêche que ce n'est pas l'appel du 18 juin que les gens entendront. C'est une reconstitution de l'appel du 18 juin. Le texte est sans doute très, 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 très proche de ce qui a vraiment été dit. L'émotion, elle est inventée de toute pièce.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement, du coup, ou même de témoins. Enfin, il y a des témoins lointains, mais du coup, c'est
Ouais,
difficile à
alors en fait,
reproduire.
ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est calé sur deux paramètres. Le premier, c'est ce que les historiens nous ont dit du contexte du 18 juin, cette journée-là. Qu'est-ce que De Gaulle avait fait ce jour-là? Dans quel état d'esprit il pouvait être voilà, en fin de journée, en toute fin de journée, quand il a prononcé le discours? C'était une journée marathon pour lui. Il a dû retoucher son texte plein de fois. Il était arrivé à Londres la veille. Enfin voilà, c'était. Faut imaginer l'Europe, la France. Enfin, à ce moment-là, c'est le chaos. La France va bientôt signer l'armistice. Pétain, le 17, a demandé à ce que les Français déposent les armes, mais une partie du gouvernement français n'est pas sur cette ligne-là. L'armée française continue de se battre, en fait, à ce moment-là. Donc c'est sans doute une période de très grand stress, très grande angoisse. Ça a été important pour nous. Puis l'autre paramètre, c'est l'appel le plus proche de celui du 18 juin, qui est celui du 22 juin, qui lui a été enregistré. Et on s'est dit, bon, bah voilà, prenons cet appel-là comme appel référence, enfin, ce discours-là, le discours du 18 juin, comme appel, comme discours référence, du discours le plus proche en termes de grain de voix, de timbre, d'émotion. De Gaulle ne devait pas être très très loin de ça 4 jours plus tôt.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Du coup, là, c'est l'intrusion d'une nouvelle technologie, d'un nouveau type de technologie dans le journalisme. Toi, tu vois de façon plus large, comment tu vois l'arrivée de ces generative AI, de ces deepfakes, de cette utilisation de l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Est-ce que ça, c'est un outil qui t'intéresse, mais qui t'inquiète, qui t'intéresse, mais pour lequel tu as de grands espoirs. Comment ça se positionne dans ta...
En fait, j'ai été surpris par un truc en bossant sur ce projet-là. C'était non seulement la très bonne réception par les chercheurs en histoire qu'on a rencontrés, c'est-à-dire que 100% des gens à qui on en a parlé nous ont dit « c'est très chouette ». On a hâte d'écouter ce que ça donne. En termes de pédagogie, ça peut être intéressant. Voilà, donc une très bonne acceptabilité. Et puis, une très bonne réception aussi de la part des gens qui sont plutôt dans le domaine de l'éthique, éthique des deepfakes, éthique de l'intelligence artificielle. On a parlé avec des chercheurs en neuroéthique, par exemple, qui nous ont dit, bah voilà, ce qui est important, c'est d'expliquer la démarche, de raconter ce qui est vrai, ce qui est reconstruit. Donc ça, on insiste beaucoup dans le contenu là-dessus. Et on ne diffuse pas tel quel un deepfake en disant, on a recréé l'appel du 18 juin, voilà à quoi ça ressemble. Il y a peut-être 2 minutes 30 du discours, et avant, il y a 7 minutes de contexte, quoi. Moi, je d'en avoir parlé avec justement les chercheurs en éthique qui bossent là-dessus, ça m'a fait pas mal changer de regard là-dessus. J'étais un peu dans une perspective peut-être très française aussi, très très occidentale, de me dire attention, risque, Frankenstein, on crée une machine qui va nous dépasser et tout. Et en parlant avec eux, finalement, eux étaient assez étaient plus mesurés en disant. Ça ouvre aussi plein de perspectives intéressantes. Si on regarde en Asie, ils bossent là-dessus en se disant que ça peut aider les humains à faire plein de choses, que ça peut permettre à des gens malades ou en choc post-traumatique de mieux exprimer leurs émotions. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y a des grands risques de biais racistes, par exemple, que des call centers puissent modifier la voix des personnes qui parlent pour effacer un accent marocain ou polonais, ça pose quand même question, pour pas dire que c'est extrêmement dérangeant.
Du sud de la France.
Pardon ?
Ou du sud de la France.
Ou du sud de la France, ouais, tout à fait. Ou par exemple, donner une émotion plus positive à la voix de quelqu'un qui est en colère. Voilà, pour qu'on soit moins gêné par cette voix-là, de façon... automatisé, quoi. Voilà, j'ai l'impression que dans le domaine journalistique, on est encore en phase même pas vraiment exploratoire, qu'on est vraiment... on voit la jungle, mais on n'est pas encore vraiment rentré dedans. On se dit, waouh, il y a un truc énorme qui va arriver, mais attendons de voir. C'est un petit peu comme le métavers, on en parle beaucoup, mais pour l'instant, très peu d'exploration, défriche très peu, parce que c'est peut-être trop tôt aussi. Hein. Je J'ai encore du mal à me faire une idée en fait de la question. J'ai l'impression que ça va être un truc énorme, mais sur lequel on n'a pas encore sorti de la machette pour éclaircir un peu la forêt, quoi.
Est-ce que vous avez prévu d'autres types de projets de ce goût-là, ou alors c'est un projet qui est destiné à rester un one-shot?
Pour l'instant, il est conçu comme un one-shot, ce projet-là. Pour des questions de temps de travail, c'est quand même un gros projet, on ne peut pas faire ça toutes les semaines. Il y a actuellement des projets autour du text-to-speech très chouettes au sein du monde. Donc, par exemple, l'application La Matinale du matin, il y a la possibilité en text-to-speech assez bien fichu d'écouter les articles. Sur la création de deepfake audio ou vidéo, pour l'instant, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'en produire un, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et voilà.
D'accord, très bien.
Sachant que de toute façon, il y a sans doute moyen de faire plein de choses, mais dans le cas des deepfakes tels que produits avec l'IRCAM Amplify, il faut quand même de la matière documentaire au départ pour que la machine puisse travailler. Donc, on ne peut pas, par exemple, recréer, je sais pas moi, quand bien même on aurait le texte d'un discours d'Alexandre le Grand, on ne peut pas recréer un discours d'Alexandre le Grand, quoi. Enfin, on n'a pas de matière originale pour le faire.
Il n'y a pas la voix, il n'y a rien, quoi.
N'y a rien.
Mais ouais, tu peux envisager, en fait, c'est les personnages historiques récents, en tout cas tant que les outils d'enregistrement existaient, au-delà, c'est impossible à reproduire, quoi.
L'autre chose, c'est le travail qu'on mène avec la cellule d'investigation côté vidéo, où là, pour le coup, on développe des outils d'authentification des images pour lutter contre les manipulations. Donc, il y a plein de strates à ça. Ça va du truc tout bête qui est de contacter les gens pour récupérer les images sources, regarder les métadonnées de ces images-là, par exemple. Mais chemin faisant, je pense que si les deepfakes se développent, il faudra qu'on s'équipe d'outils qui sont dédiés à ça, qu'on se mette en contact avec des chercheurs spécialisés pour bosser là-dessus. J'ai vu par exemple, outre les deepfakes de visage ou les deepfakes de voix, il y a des deepfakes d'images satellites par exemple. Voilà, la possibilité de recréer ou de créer de fausses images satellites pour tromper des gens. Bon, ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore eu trop à affronter dans notre quotidien, donc on ne s'est pas équipé fortement contre ça, mais. Si ça arrive, on le fera.
À ce sujet, il existe aux États-Unis deux organismes, le Content Authenticity Initiative et le C2PA, qui ont organisé un consortium qui développe une sorte de label technique, qui a été notamment adopté par Leica et Nikon pour authentifier la provenance des images. Ça, c'est des choses que. Tu penses être utile dans ton boulot de vérification de source, on va dire, ou est-ce que tu penses que ça peut être un outil relativement problématique sur la traçabilité des sources, sachant que ça peut impliquer aussi, par exemple, des sources qui souhaiteraient rester anonymes?
Pour l'instant, 90% du travail d'authentification qu'on mène, c'est un journaliste derrière un écran, ou une journaliste derrière un écran qui, par recoupement d'informations, va pouvoir authentifier la vidéo. Donc, par exemple, le Brésil, là, en ce moment, on est en train de faire un contenu, une vidéo d'enquête. On regarde les images, on compare le tapis du bureau de Lula pour voir s'il correspond bien à un Street View, enfin, une image 360 dans Google Maps de cette même pièce. Et c'est vraiment du à tâtons, image par image, aller trouver les infos qui permettent de l'authentifier. On a assez peu d'outils extérieurs, de grosses boîtes qui vont venir, par la technique, nous assurer qu'une image est certaine. Mais encore une fois, je trouverais ça potentiellement intéressant.
Eh bien, merci de ces éclairages sur ce projet-là.
Ben, merci à toi.
Synth Podcast.